Bonjour à toutes. Bezrat Hashem, que le cours soit donc pour toutes les Iloui Neshamot que vous avez citées et pour la Refoua Shlema, les Avdil, de tous les malades de Am Yisrael. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, je voudrais vous présenter un rythme qui existe dans l'univers. Ce rythme nous est donné dans un Midrash Rabba, sur la paracha de Bereshit, Bet Siman Zayin. Le Midrash nous dit quelque chose, et vous allez voir que c'est beaucoup plus large que les premiers degrés de compréhension qui peuvent sortir de ce Midrash. Amar Rabbi Chiya Rabba, un sage qui s'appelle Rabbi Chiya Rabba, nous dit Mitrilat Briato Shel Olam, au départ de la création du monde, Safa, HaKadosh Baruch Hu a visionné Bet HaMikdash Banoui, que le Bet HaMikdash était construit, Vecharev, et qu'il était détruit, Vebanoui, et qu'il était reconstruit. Il y a donc ici un schéma que le Midrash vient nous présenter, beaucoup plus qu'une vision de Akadosh Baruch Hu sur ce qui va se passer dans l'avenir. Il y a ici donc quelque chose qui est rythmé. Et pourquoi je dis que cette chose-là est rythmée? Tout simplement parce que le Midrash va chercher ses références dans la Torah elle-même. Le Midrash va nous dire, quand il est dit dans la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, ça c'est une création, ça veut dire que le Bet HaMikdash est construit. Le problème c'est le verset suivant. Ve'aretzaita tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom, et la terre était tohu bohu, nous dit le Midrash, ça c'est la phase où le Bet HaMikdash sera détruit. Mais après, encore une fois, reconstruit. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il est écrit « Vayomer Elohim Yehi Or ». Dieu a dit que la lumière soit. Et le Midrash comprend que cette lumière est en réalité une formule qui dit que le temple va être reconstruit. Le temple est appelé la lumière du monde. Est-ce que le Midrash vient nous décrire tout simplement quelque chose qui va se passer dans l'histoire humaine, ou bien il y a quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus subtil à l'intérieur de ce Midrash? Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'il s'agit effectivement d'un rythme très subtil, qui est inhérent, qui fait partie de ce monde dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il y a un ordre, et il est le suivant. Toute chose que vous allez passer dans votre vie, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, il prend référence dans le Bet HaMikdash. Le Bet HaMikdash n'est plus maintenant juste un édifice où Akadosh Baruch Hu se dévoile, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les constructions possibles dans ce monde, ça s'appelle Bet HaMikdash. Si je traduis Bet HaMikdash, ça veut dire la maison du Saint béni soit-il. Tout simplement ce monde. Ce monde doit être un jour la maison du Saint béni soit-il. C'est pour ça qu'il a créé ce monde. Donc le Bet HaMikdash n'est pas un temple, c'est tout simplement la lettre Bet, et c'est pour ça qu'on l'appelle Bet HaMikdash, c'est la lettre Bet dans laquelle sera contenue la lettre Aleph. Et c'est pour ça que la lettre Bet en hébreu s'appelle Bait, se lit Bait. Nous sommes dans un monde qui est un grand Bet. Puisque tout dans ce monde ne se mesure que dans les éléments. Or, les éléments, pour les définir, il faut les définir par rapport à quelque chose. Donc, il y a toujours deux éléments dans ce monde, par définition. C'est ça par rapport à ça. Même la distance, c'est elle par rapport à moi. Donc, il est obligé d'avoir deux éléments pour mesurer une distance. Donc, tout le monde dans lequel nous sommes, c'est un grand « deux ». En hébreu, « bet ». D'ailleurs, le plus petit élément du temps, c'est toujours un « deux ». C'est pour ça que vous dites en français « la seconde ». Pourquoi on dit « la seconde » ? Parce qu'il faut deux, premier, second. Donc la seconde, s'il n'y a pas deux, il n'y a pas de temps. Si j'arrive à prouver qu'un élément est unique, bien chez lui, le temps n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité parfaite. Il n'est pas dans la pluralité, Chas v'Shalom. Il n'y en a pas deux. Donc chez lui, le temps n'existe pas. Donc chez lui, l'espace n'existe pas. On ne peut pas le mesurer. Par contre, toute sa création est mesurable. Et nous sommes dans cette création. Donc je suis dans un bet. Maintenant je lis le mot bet hamikdash. Le bet du mikdash. Donc le mikdash, sous-entendu le aleph. Quand je fais venir un aleph qui est le mikdash et que je le place dans le bet de notre monde, c'est le bet qui est devenu la maison du mikdash. Vous êtes avec moi? Si je rentre maintenant dans le mikdash, je suis dans le bet ou dans le aleph?
Dans le aleph.
C'est pourquoi les lois qui sont à l'extérieur du mikdash ne sont plus les lois à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai le devoir d'allumer le feu le Shabbat. L'interdiction d'allumer le feu le Shabbat, ce n'est que dans le bet. J'ai un vêtement avec du lin et de la laine, j'ai le droit de le porter. Interdit, ça s'appelle Shatnez. Dans le mikdash, c'est une mitzvah de le porter. Incroyable. Dans ce monde, quand est-ce que commence votre Shabbat? Le jour ou le soir?
Le soir.
Le soir. Pourquoi? Parce qu'il est inversé. Vayehi erev, vayehi boker, yom echad. Au mikdash, c'est exactement l'inverse. Ça commence par le jour et ça se termine par la nuit. Vous comprenez que tout est inversé. Donc quand je rentre dans le mikdash, je rentre dans l'ambassade de Dieu. Et dans une ambassade, tu es dans le pays en question. Donc quand vous rentrez dans le mikdash, vous êtes dans l'ambassade de Dieu, donc les lois qui sont à l'extérieur ne sont plus les lois de l'intérieur. Donc à chaque fois que vous traversez le mikdash, les lois inhérentes à l'espace, à la vie, n'existent plus. Un exemple, au Beth Amikdash, le peuple arrivait. C'est énormément de monde. Quand on se tenait debout, il n'y avait même pas de place pour respirer. On était coincés de tous les côtés. Et pourtant, dès qu'on entendait le nom de Dieu, on se prosternait avec les mains écartées, les jambes écartées, aplaties par terre. Comment il y avait de la place pour tout le monde? C'est impossible de se... Même pas de s'enlever une veste, c'est pas possible. Et c'est pourquoi les Chachamim nous disent « Hamikdash eino min hamida ». Dans le Mikdash, les mesures n'existent plus parce qu'il n'y a plus de « deux », tu es dans le « un ». Tu es rentré dans un autre espace, dans un autre volume que tu ne connais pas. Ça ne fait pas partie de ta vie. Tu as une distance entre un mur et un autre. Et quand tu mesures, il y a une table au milieu, eh bien, admettons qu'il y a 10 mètres d'un mur à un autre, il y a une table qui fait 2 mètres. Ça veut dire que entre la fin de la table et le mur ici, et la fin de la table et le mur ici, il y a 4 mètres et 4 mètres. Puisque la table, elle fait 2 mètres. Eh bien, quand vous mesurez la table, elle n'a pas de mesure. Il y avait encore 5 mètres et encore 5 mètres. Vous avez compris? En réalité, on ne comprend pas. Rien n'est logique dans la logique de l'extérieur, donc du bet, dans le aleph. Le bet n'arrive pas à comprendre le aleph. Si tu ne fais pas en sorte de casser le aleph en deux, pour qu'il y ait un bet, eh bien, tu ne comprends rien. Donc David HaMelech, qui a compris ce secret, nous a donné un Tehilim 62, où il nous dit, quand Dieu parle un, parce qu'il est un, même sa parole est une, nous on entend deux. Donc quand il me donne une Torah, je reçois déjà deux tables. Je ne peux pas recevoir la Torah, je suis obligé de recevoir deux. Louchot au pluriel, alors que lui ne donne qu'une Torah. Dès qu'elle traverse l'atmosphère humaine, cette Torah unique devient deux. Achat diber Elohim, lui parle en code unitaire, Achat. Shtaim zu shamati, moi je suis obligé d'entendre deux. Donc vous avez deux oreilles. Obligatoirement. On ne peut pas dessiner un être avec une oreille. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que notre monde, pour entendre quelque chose, il faut deux. Ce n'est pas par hasard. Deux, c'est le début du pluriel. Donc nous sommes dans un monde pluriel qui est censé révéler l'unité. Quel? La même chose. Maintenant, je vais expliquer ça. Ça fait partie de ce que je suis en train d'essayer de vous prouver, que dans ce monde, on ne peut jamais recevoir quelque chose une fois. La première vision que Dieu a vue, et là je reprends le Midrash, c'est qu'il y avait une construction. Mikdash. Attention, il n'y a pas marqué Bet Mikdash. Quand vous dites Bet Mikdash, c'est déjà ici. Parce que tu es dans le Bet qui a contenu le Mikdash. Mais avant que le Mikdash devienne un Bet Mikdash, il est Mikdash. C'est les valeurs de l'infini. Quand elles descendent dans ce monde, c'est le Mikdash qui a atteint le Bet. Il s'y posait sur le Bet. Le Bet est devenu sa maison, Bait. On écrit pareil. Donc Dieu, la première vision qu'il a, c'est quelque chose de construit, d'entier. Je pose une question pour voir si vous avez compris. Est-ce que je peux comprendre quelque chose de ce premier Mikdash? Rien. Parce qu'il est dans un domaine qui ne me touche pas, il est dans l'unité, et moi je suis déjà dans le pluriel. Donc je peux rien savoir de l'unité divine, rien. Si ce n'est que lorsque cette unité divine descend vers moi et, entre guillemets, coupe sa parole en deux. Et dès que sa parole est coupée en deux, 2, 3, 4, 5, peu importe, 2 c'est le début, je peux entendre quelque chose, mais je suis obligé d'entendre en stéréophonie. Je ne peux jamais écouter, d'ailleurs c'est interdit, que quelqu'un vienne me dire quelque chose sur une autre personne, je n'ai pas le droit d'écouter ses paroles et de les prendre sans rien aller voir chez l'autre. Parce que c'est son de cloche. Donc j'ai entendu que d'une seule oreille. Et donc j'ai un seul sens, donc je suis dans l'un des sens. Donc je suis obligé d'aller écouter l'autre son. Pour avoir un équilibre. Et c'est comme ça que le monde existe. Donc je résume, nous sommes dans un monde bête et le Aleph doit se révéler dans notre monde. Facile. Notre rôle, c'est d'être un bon bête. C'est-à-dire une bonne assise, une bonne plateforme sur laquelle le Aleph se dépose. Et lorsque le Aleph se dépose en moi parce que je représente un bon élément de réception, eh bien, je deviens Aleph Bet. On est d'accord? Je suis le Bet du Aleph. Donc j'ai le Olam Ha Ba. Comment vous écrivez Ba? Bet Aleph. C'est ça le Olam Ha Ba. C'est pas de mourir et d'arriver à voir Dieu après la mort, ça c'est pour les chrétiens, c'est pas pour nous. Nous, à Kadosh Baruch Hu, on doit le voir de notre vivant. Sinon, il faut arrêter de dire le Hallel, Lo Hametim Yehalleluya. Ce n'est pas les morts qui peuvent louer Dieu. Ce n'est que les vivants. Malheureusement, on nous a éduqués à un judaïsme où la rencontre avec Dieu se fait après la mort. Chas v'shalom. L'antithèse même du judaïsme. Parce que si c'était le cas, eh bien, suicidons-nous pour atteindre Dieu. Pourquoi avoir créé ce monde si tout le but c'est de se sauver de ce monde? Pourquoi laver un mort si on peut le jeter dans une poubelle? Il ne sert plus à rien. Le corps ne vaut rien. Il n'y a que la neshama. Chas v'shalom. Le but ultime, c'est le retour du Aleph dans le Bet. Ça s'appelle Triat Hametim, la résurrection des morts. Et celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, eh bien, c'est comme s'il disait à Kadosh Baruch Hu, il y a une force dans ce monde qui est plus forte que toi, la mort. Si la mort est la grande gagnante, vous comprenez bien qu'il y a une force dans ce monde qui est plus forte que lui, lui le dieu de la vie. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Chas v'shalom. C'est de la avodah zara. Moralité, la mort est un scandale qui ne devait pas exister. Et à cause de nos défaillances et de notre dévoiement, eh bien, elle est arrivée dans le monde. Mais il faut arriver à un temps où elle sera avalée par l'éternité. On doit finir avec cette catastrophe, avec ce scandale. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Isaïe 43, Bila Hamavet Lanessa. La mort doit être avalée par l'éternité. C'est tout. C'est comme ça que ça se terminera. Parce que le Dieu de la vie, il est inconcevable que le monde qu'il a créé, soit voué à la mort. La vie donne la vie. Donc il faut arrêter de mettre en relief la mort comme si c'était un idéal. C'est la vie qui compte dans notre monde. Et la plus grande des bénédictions que tu puisses faire à quelqu'un, c'est qu'il voit le Aleph de son vivant. Olamcha tir'e bechayecha. Je vous cite la Gemara, je te souhaite de voir ton monde, Olamcha, c'est le Aleph, ce que vous appelez le Olam Haba, qui est surtout pas le monde futur, mais le monde présent, sauf que tu ne le touches pas encore. Il est présent, mais tu n'arrives pas à l'atteindre. Eh bien, si tu l'atteins, eh bien, c'est ce que je te souhaite dans ta vie. Tu arrives à ça, tu deviens divin sur terre. Et c'est ça un tzaddik. Et donc il est shalem. Il est dans l'entité. L'entité qui annule la mort. Il y a eu déjà quelques personnages dans la Torah qui ne sont jamais morts. Non, non, il y a des personnages dans la Torah qui ne sont pas morts. Certains, c'est ce qui nous prouve qu'il y a des exceptions qui confirment la règle que je suis en train de vous dire, que c'est possible. Et qu'il faut arriver à ça. Je reviens au Midrash. Vous allez comprendre maintenant un petit peu plus. On monte et on rajoute une couche. Dieu voit le Mikdash construit, mais après il le voit détruit. Pourquoi il doit le détruire? Non, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que le premier Mikdash était dans le 1, et il est impossible de voir le 1. Donc qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va le couper en deux, donc ça s'appelle la destruction. Donc on va en avoir deux, pour justement pouvoir après atteindre la reconstruction. Alors j'arrive maintenant à un élément qui est très secret. Apparemment, c'est une règle qui touche à tout dans la vie. On va commencer par notre naissance. La Gemara, dans le traité de Nida à la page 30b, nous dit que le bébé, le fœtus, dans le ventre de la maman, ressemble à un carnet replié, c'est-à-dire que sa tête est ici, ses pieds sont là, et c'est comme ça. La tête touche les pieds. Il est comme ça dans le ventre. Et il a une lumière sur la tête qui lui permet de voir de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. En effet, si sa tête touche les pieds, c'est que le début touche la fin. Et on lui enseigne toute la Torah. Vient un ange et lui enseigne toute la Torah. Ok, magnifique. Ça correspond à quelle phase dans notre Midrash? Que Dieu a vu au début qu'il y avait un temple construit. Voilà, le bébé dans le ventre de sa maman, c'est un temple construit. Parfait. Vient le jour de la naissance. Le bébé sort du ventre, nous dit la Gemara, au moment de la sortie, il y a le même ange ou un autre qui vient, qui lui fait oublier tout ce qu'il a appris dans le ventre. Joha. À quoi ça sert de lui enseigner tout ça, si tu lui fais oublier le jour de sa naissance? Ça sert. Parce que tu as laissé une trace, une empreinte, mais maintenant tu as cassé cette construction. Et pourquoi tu l'as cassée, cette construction première? Parce que le bébé n'a rien fait pour mériter ça. On lui a donné cadeau. Et c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et c'est pour ça, nous dit le roi Salomon, « Sonne matanot ichye » Celui qui veut vivre doit haïr les cadeaux. Quand on vous donne un cadeau qui n'est pas mérité, c'est la mort. Il faut mériter ce qu'on te donne. Si ce n'est pas mérité, bien tu ne pourras pas le garder longtemps. Et d'ailleurs, tous les cadeaux que vous avez reçus sans rien avoir fait, ils ont disparu. Les seuls cadeaux qui vous restent dans la vie, ce ne sont plus des cadeaux, c'est votre participation. C'est ce pourquoi vous avez bossé, travaillé. Un cours de Torah, c'est pareil. Vous êtes en chemin, vous écoutez un cours à la radio. C'est le vôtre? Non. C'est celui du Rav. Vous allez le garder en souvenir? Très peu de temps. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas étudié. Vous avez tout simplement été passif, récepteur de quelque chose qui vous vient d'ailleurs. Tu veux que ce cours t'appartienne? Tu dois l'écrire. Et après, le réenseigner à quelqu'un. Ça veut dire que celui, par exemple, maintenant, au moment où je vous parle, qui étudie le plus, c'est moi. Parce que je suis en train de vous enseigner. Donc je suis obligé de restreindre, de limiter ma pensée dans des mots bien précis, et ça, ça va rester chez moi. Moret, il était le bébé, sort du ventre, il oublie tout, et toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier, il va réétudier, parce qu'il a déjà, pas étudié, on lui a déjà enseigné. C'est d'ailleurs une petite finesse dans la Gemara. Pas marqué qu'il a appris la Torah. On lui a donné. Différent. Là, il va commencer à apprendre. Là, c'est autre chose. Là, il va devenir actif. Donc, il va gagner son étude. Ok? C'est pour ça, tout ce que vous étudiez en réalité, vous l'avez déjà étudié. Alors, comment ça s'appelle l'étude en hébreu? Mishnah. Mishnah, qu'est-ce que vous entendez dans Mishnah? Shnaim. Vous vous rappelez le 2 de tout à l'heure? Mishnah, ça veut dire 2. Ça veut dire que nous sommes dans un monde de 2. Donc tu ne peux pas entendre une Torah qui n'est pas liée aux 2. Donc la Torah s'appelle d'une manière générale Mishnah. Alors quand tu dis la Mishnah maintenant, ce n'est pas un petit texte des rabbins. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire la deuxième. La deuxième fois. Et maintenant, je commence à comprendre le Midrash. Regardez un petit Midrash, de rien du tout apparemment. Jusqu'où maintenant commence à partir la pensée du maître qui a dit ce Midrash. Au début, donc, j'ai quelque chose d'entier, de parfait, mais il n'est pas le nôtre. Il ne m'appartient pas. C'est Dieu qui l'a donné. Donc cette chose-là doit se casser. Deuxième phase, brisure. Troisième phase, je dois le gagner. Je dois travailler pour avoir ce que j'ai reçu cadeau. Je mérite maintenant. Et je vais commencer à vous expliquer, à vous prendre des exemples de notre vie. Je vous ai déjà donné un premier exemple avec l'enfant dans le ventre de la mère et vous allez voir que maintenant ça commence à se voir dans tous les recoins de l'existence. C'est-à-dire qu'il y a ici une loi, ce qu'on appelle un chok. C'est comme ça. Mon cher Rabbeinu, dès qu'il a fini de construire le Mishkan, qui était le temple du désert, immédiatement après l'avoir construit, qu'est-ce qu'il fait? Il le déconstruit, il défait. C'est quoi ce truc-là? 7 jours avant que le Mikdash existe, n'existe, Moshe le construit et le défait. C'est-à-dire, les gens qui passent à l'extérieur et qui le voient, ils se disent, Misken, celui-là, il a été vraiment amoché. Il est fatigué, le mec. Très bizarre comme truc. Et chaque fois que le peuple d'Israël va se déplacer dans le désert, il va falloir démonter encore une fois tout ce Mishkan, le transporter, démonter, arriver à une station, le remonter, et le redémonter, et le remonter. C'est quoi ça? Tu ne peux pas le prendre tout entier avec des éléments déjà facilement? Nous sommes ici dans la source même du secret de l'évolution du monde. Construction, déconstruction et reconstruction. Et c'est comme ça que le Beit HaMikdash va être le troisième que nous attendons. Pourquoi c'est le troisième? Parce qu'il y a eu construction, déconstruction et reconstruction. Attention, la dernière construction, est-ce que c'est la même que la première? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a eu une déconstruction, mais après, une fois que je l'ai construit, est-ce que c'est le même? Il y a fait. Le troisième est beaucoup plus élevé que celui que j'ai reçu gratuitement. C'est la même chose, mais ça veut dire tout près, ça veut dire que c'est moi qui l'ai travaillé, c'est vous, maintenant, par votre languissement. C'est pas forcé de venir apporter des pierres. Chaque fois que vous languissez l'avènement messianique, c'est comme si vous rajoutez une pierre à l'édifice. Vous allez comprendre qu'en réalité, il va être très beau le Beit HaMikdash, le troisième, parce qu'il est fait de quoi? De vos pleurs, de votre amertume, de vos languissements, de votre j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie que le Mashiach vienne. Mais tout ça, ça va être gravé dans les pierres. Il va y avoir chaque pierre avec le nom de la personne qui a pleuré, qui a langui. Et chaque pierre aura une autre différence, un autre degré. Et chaque carrelage dans le Bet Amigdash, comment on dit Shir HaShirim, Tocho, Ratsouf, Ritzpa, Ahava. Vous avez des carrelages à la maison? Les carrelages du Bet Amigdash, ça s'appelle l'amour. Extraordinaire. Alors tu marches sur des carrelages d'amour. Tocho, Ratsouf, Ahava. C'est-à-dire à chaque fois que tu poses tes pieds sur un carrelage, rappelez-vous qu'on est pieds nus au Bet Amigdash, on n'a pas le droit de mettre des chaussures parce qu'il faut un contact direct avec l'infini, qui est dans le fini, eh bien, tu es imprégné d'amour. C'est-à-dire à chaque fois que tu fais un pas, j'aime tout, j'aime. On est désallumé, complet. Pardon ? Le kotel n'est pas le temple, c'est l'extérieur, d'accord ? Nachod, exactement. D'ailleurs, attachez vos ceintures, il y a une mitzvah dans la Torah de divorcer et de se remarier avec la même femme. Les gens ne le savent pas, hein ? Justement pour ça. Ça veut dire qu'il y a une première donnée, mais ce n'était pas encore celle que j'ai choisie, celui que j'ai choisi. On me l'a collé. J'ai pas envie. J'ai envie qu'on nous sépare, et j'ai envie de le choisir, de l'aimer, de le désirer. Okay. C'est bien ? C'est pour ça que j'ai dit attacher les ceintures. Hein. Et donc il y a quelque chose de nouveau, de très puissant. Faites-nous partager, nous aussi. Donc le chidouche, la nouveauté dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que entre les deux constructions, il y a une phase de zéro. En mathématiques d'ailleurs, ceux qui ont fait des maths, la physique, pour passer d'un plan à un autre plan, il faut passer par zéro. Mais c'est la même chose. Tant que tu n'es pas passé par zéro après le premier degré de construction, tu ne pourras jamais vraiment monter dans ta vie. Et maintenant, je vais vous rajouter encore une couche. Quand je viens étudier la Torah, les Chachamim nous donnent une règle. En Adam Omed Al-Divré Torah, Ela imken nechshal bahem. Incroyable. Voilà, ça va avec ce que je suis en train de vous dire. Un homme ne peut pas comprendre quoi que ce soit dans la Torah s'il ne s'est pas cassé la sur cette chose-là. C'est-à-dire, il doit être brisé parce qu'il n'a rien compris. Il est désespéré, tout se brise et il doit reprendre l'étude et cette fois-ci, il comprendra. Un jour, un roi a demandé à un tailleur juif de lui construire, de lui fabriquer un costume. Le tailleur est arrivé à la maison, tout content, sa femme, « Tiens, t'as vu chérie, je suis le meilleur tailleur de la ville. Le roi m'a demandé de lui fabriquer un costume, regarde ce tissu, extraordinaire. » Ok, c'est bien, bravo. Le tailleur fait un costume magnifique. Le jour arrive, le roi essaie le costume, il dit « ça va pas, il ne me plaît pas du tout. Je te donne rien du tout, en plus de ça, tu es condamné à mort. Je vais donner à un autre. » Le juif sort avec un... Il ne sait plus quoi faire. Il lui dit, je veux que tu me le refasses. Je te donne encore une chance. Dans 3 jours, si tu ne me le refais pas, t'es mort. Il rentre à la maison, il est déphasé, défait complètement, malade, à zéro, le moral. Il dit à sa femme, regarde où on en est, machin, tout ça. Elle lui dit, va voir le Rav. Il va voir le Rav. Il dit, Kvodarav, j'étais chez le roi, il m'a demandé un costume, je lui ai fait un costume magnifique, je ne comprends même pas, ça lui va magnifiquement. Le Rav lui dit, défais-le, et recouleux. Il dit, mais c'est la même chose. Il dit, fais-le. Il rentre, il dit à sa femme, le pauvre, il comprend rien en couture, quoi. C'est mon métier, défait, refait, c'est la même chose. Il pleure, il ne sait plus quoi faire. Sa femme lui dit, mais fais ce que le Rav t'a dit, il te reste un jour. Il défait le costume, il le recoue. Le lendemain arrive, le truc, il tremble, il ne sait même plus comment aller chez le roi. Le roi le reçoit, il lui dit, voilà, il ne sait même plus comment faire. Le roi essaye le costume, il dit, ah, enfin, magnifique. Il va chez le Rav. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait faire? J'ai même pas voulu te le faire, c'est ma femme qui m'a forcé à le faire, parce que c'est la même chose, j'ai rien fait. Il dit, si, 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 tu as pleuré. La première fois, tu l'as fait avec orgueil. Et le roi, il a ressenti. Mais c'est la même chose. Il y a une phase dans notre vie où on doit casser la phase précédente pour pouvoir augmenter et grandir. Si tu viens quelque part, ne serait-ce qu'à un cours de Torah, avec la sensation de « moi je sais de toute façon », et ça me fait rire des fois, qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? Ben, le livre de... On va parler du Beit Hamikdash. Ah, j'ai déjà fait un cours sur ça. Merci. Ça me fait toujours rire. Qu'est-ce que t'as fait? Tu peux refaire 2 millions de fois le même cours sur le même sujet, c'est toujours différent. Tu comprends pas qu'il s'agit là de l'infini? Eh bien, si tu viens à un cours avec la sensation qu'on n'a rien à t'apprendre, tu n'apprendras pas. Pour arriver à un cours, et je vous parle de Talmidei Chachamim, de grands qui vont écouter d'autres grands, eh bien, ce grand en question doit s'annuler complètement. Je ne sais rien. J'arrive au cours comme un bébé. C'est la seule condition pour étudier. Les Chachamim nous disent donc qu'il y a ici une évolution entre le premier Beit HaMikdash et le deuxième, le dernier, ce qu'on appelle. Pourquoi ? Parce que j'ai omis volontairement, vous savez que vous ne connaissiez pas ce Midrash, je vous ai enlevé un mot. Mais vous n'avez pas fait attention, c'est normal. Maintenant, je vous redis avec les vrais mots. Mitrilat briato shel olam, au début, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a vu un temple construit, détruit et construit d'une manière parfaite. Banouï ou meshuchlal. Ça, j'ai omis de vous le dire. Pourquoi? Parce que je voulais construire mon cours. Mais maintenant, vous comprenez que le Midrash l'a déjà dit, c'est que le dernier va être beaucoup plus fort que le premier qui t'a été donné gratuitement. Tu n'as rien fait pour ça. On va commencer dans pas très longtemps à sonner du shofar. Est-ce que vous vous rappelez du son du shofar? C'est tout, 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 c'est ce que vous avez dans la tête? Alors je vais vous corriger, il n'y a pas de tout, 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 tout. Il y a d'abord un tout. Après il y a un tout, 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 tout. Mais à la fin il y a encore un tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est exactement le rythme que je suis en train de vous donner. Le premier son est un son qui est parfait, mais il est divin. Il ne s'arrête même pas. D'ailleurs, les vrais sonneurs de chauffard ne font pas à la fin. Il ne faut pas. C'est ce qu'on appelle un kol pashut. Mais ça, c'est pas le mien, c'est divin. Alors Dieu, il te dit, ça c'est le mien, maintenant casse-toi un peu. D'accord. Maintenant, tu peux refaire. Mais ça, c'est le tien. Vous avez compris? Ça veut dire que le son du chauffard, vous n'avez même pas fait attention. Il fait partie de ce rythme que je suis en train de vous donner là. Alors qu'apparemment celui de l'extérieur, qui regarde ce que je suis en train de vous dire, eh bien le premier son du tout et le dernier son du tout, c'est le même. Pas du tout. Ce n'est pas le même. C'est un grand secret dans notre vie. Au début de la création, Akadosh Baruch Hu a créé, qu'est-ce qu'il y a marqué? Un grand luminaire et un petit luminaire? Non. Il y a marqué les deux grands luminaires. Ah! Deux grands. Et immédiatement à côté, il y a marqué le grand pour la journée et le petit pour la nuit. Attends, d'où il est sorti ce petit? Tu m'as dit qu'il a construit deux grands luminaires. Vaivra Elohim et Tameorot Hagdolim. Alors, il faut savoir ce que tu dis. Et d'un coup après, tu me dis, et ta maor agadol la yom, le grand pour le jour, et ta katan la laïla. C'est quoi ce petit? Eh bien, entre-temps, il s'est passé quelque chose que la Torah ne t'a pas raconté, mais que l'étude de la Torah t'oblige à comprendre. C'est que la lune est venue dire à Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible de construire et de conduire un monde de cette manière. Akadosh Baruch Hu a dit à la lune, tu as raison, va et diminue-toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la lune n'est pas comme le soleil. Elle n'est que le reflet de la lumière du soleil. Donc elle s'est cassée, elle s'est brisée. Mais quand vous faites Birkat Alevana, la prière de la lune, une fois par mois, avant le 15 du mois, avant le 14 du mois, qu'est-ce que tu dis? Qu'un jour, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Donc tu reviens au départ. Voilà encore une fois le rythme. Au début, les deux sont grands. Après, il y a une brisure. Et à la fin, les deux seront encore une fois grands. Mais la deuxième fois sera beaucoup plus forte que la première. L'homme et la femme ont été créés dos à dos. Non, pas des chérubins, dos à dos, tout simplement. Adam et Chava, avant de les séparer, ils étaient dos à dos. Pourquoi les séparer alors? Pourquoi ils sont dos à dos? Ça veut dire qu'ils ont été créés dos à dos. Ça veut dire qu'en réalité, on les a collés les uns aux autres sans demander leur avis. C'est de l'amour, ça? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les séparer. Ça, c'est la deuxième phase, la brisure. Troisième phase. L'homme va dire à la femme, « Ah, cette fois-ci, je la veux. »« Zot ha-pa'am, etse me'atsamai batsar mibsari, les zot ikarei isha. » Celle-là, je veux bien me marier avec elle. Peu importe qu'ils ne se voyaient pas. Ce n'est pas le principe. C'est que tout simplement, ils n'avaient pas choisi. On lui a collé sur le dos. Quelle? Yoshevet li alagav. Quand tu choisis quelque chose dans la vie, c'est parce que tu as un languissement, parce qu'il y a un désir. Ça, c'est une construction. Donc au début, on t'a donné apparemment quelque chose d'entier. Encore une fois, il fallait le briser. Et après, arrive l'élément du choix. Vous voyez tous les exemples que je suis en train de vous donner? Mais c'est rien encore. On n'a même pas commencé le chiour. Tout ceci est inscrit subtilement, dans le Midrash de Rabbi Chiya Rabba. Il nous dit, tu sais, le Mikdash, il est entier, après il est détruit, après il est entier. Allez, vas-y. Mais en réalité, on t'a pas compris ce qu'il t'a donné ici, le sens de toute la vie. Toute la vie, c'est comme ça. Et c'est ça le secret de notre monde. Donc, lorsqu'on va passer... Maintenant, j'introduis une notion de Kabbalah. Pour passer de la royauté d'un certain degré à la royauté messianique d'un autre degré, il va falloir passer par une brisure, une cassure de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous y êtes. C'est maintenant. Le monde de maintenant, maintenant, au moment où je suis en train de vous parler, c'est une catastrophe. Tout s'est cassé la figure. Tout ce qu'on connaissait, tous les rites, dans tous les domaines, il n'y a plus rien qui ne veut plus rien dire. Aucune règle, aucun spécialiste dans aucun domaine, il n'y a plus rien. On est en train de passer par une phase de zéro, une extinction totale de toutes les lumières, de tous les luminaires qu'on a connus. Ceux qui ne connaissent pas ce secret, eh bien, ils sortent du cours, ils se suicident. Et nous qui connaissons maintenant le secret, c'est un moment nécessaire. T'es obligé de passer par cette extinction de l'ancien pour atteindre le nouveau. Ce sera beaucoup plus fort parce que pendant cette extinction, tu vas commencer à te faire du souci, tu vas pleurer, tu vas te dire je comprends plus rien, j'ai plus de émouna, je suis dans la dépression totale, j'ai plus de confiance en rien, j'ai plus confiance en personne. Rabotaï, beaucoup de gens sont dans ce cas maintenant. Je reçois des dizaines de coups de fil par jour avec des gens qui sont au bord du suicide, des gens qui sont sur la fenêtre en train de sauter, que je dois récupérer à la dernière seconde pour ne pas qu'ils sortent. Comme ça, à ce point-là. Maintenant, sur la route, dans la voiture, une femme qui m'a dit « Je te laisse la responsabilité de mes enfants. » Comme ça, comme je vous le dis. Si tu apprends que je suis parti dans l'après-midi, comme ça. Dépression totale. Des gens sont du... Alors, imaginez-vous, tout le chemin, j'étais en train de lui parler, de lui expliquer, je veux te voir, on va parler, on va expliquer, machin, fais attention, une folie. Rabotaille, ce secret-là, il faut le connaître. Maintenant que vous l'avez dans votre poche, dans votre cœur, à chaque fois que vous allez être dans un passage de détresse, d'extinction, vous allez vous rappeler du chiour en vous disant c'est juste un passage, ça va se rallumer. C'est obligatoire. Parce que ça fait partie du rythme de la vie. Parce qu'au départ tout était gratuit. Maintenant que tu as envie, que tu pleures, que tu fais l'effort, ce deuxième degré sera beaucoup plus grand. Même les choses qui sont bonnes actuellement, elles sont bonnes pour Kita Aleph. Mais elles sont plus bonnes, assez bonnes pour le Kita du Mashiach. C'est-à-dire, on est à la maternelle par rapport à la lumière messianique. Pour grandir, il ne faut pas monter stam un étage. Il faut quitter l'escalier d'hier avec tout ce que tu as eu l'impression, que tu as tout compris, que tu as tout fait, que tout est bon, tout est parfait. C'est de la rigolade. Si tu n'es pas capable, tu n'as pas le courage de laisser tomber pour voir une nouvelle lumière, complètement nouvelle, eh bien tu seras que la suite de ce que tu étais hier. C'est pas ce que la Torah demande. Quand j'ai écrit votre cours là, mon cours pour vous, j'ai ouvert un texte? Non. J'ai oublié tout. C'est-à-dire, je fais ce que je vous dis. J'ai été chercher un nouveau cours. J'aurais pu aller chercher un cours de l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai plein de cours. Non, c'est pas honnête. Ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de moi-même. Je vais te donner un petit truc qui est déjà, que je connais, qui est rassurant, qui est tranquille. Allez, encore des bonnes femmes, je vais leur donner un petit cours, elles sont contentes. Chas v'shalom. Chas v'shalom. J'ai un respect pour vous, et je vais chercher pour me renouveler moi-même. Pour ne pas être la suite de ce que j'étais hier. J'ai éteint le Yoel d'hier et d'avant-hier pour rallumer un nouveau Yoel ce matin. C'est ça le Inyan. Je ne vous dis pas ça juste pour Chas v'Shalom, c'est juste par enseignement. Si on faisait ça, Rabotai, dans tout ce qu'on fait dans la vie, on serait complètement différent. Chacun dans son métier. Vous arrivez dans vos métiers comme des conquérants qui connaissaient déjà tout le truc, c'est facile. Rien du tout. Quand je rentre dans mon atelier de peinture, je dois être Yoel zéro. Devant une toile vierge, zéro. Réinvente-toi maintenant. Ne me fais pas ce que tu as fait hier. C'est trop facile. Ça, c'est le secret de la Torah Rabotai. Encore un exemple. Le soir de Pessah, de la sortie d'Égypte, les grandes lumières divines nous ont sortis. nous les avions méritées, ces grandes lumières? Pourquoi vous dites non? C'est vrai, vous avez raison. On ne les a pas méritées du tout. Vous le dites même dans la Haggadah de Pessah, Ve'at Erom Ve'eria, tu étais nu à 49 degrés d'impureté. Donc Akadosh Baruch Hu nous a fait une bonté incroyable, nous a donné une très grande lumière de la Géoula. Allez, monte. Cette lumière nous appartient? Non, puisqu'on n'a rien fait pour la voir. Donc immédiatement après la sortie d'Égypte, que se passe-t-il? La lumière disparaît. C'est pour ça d'ailleurs que pendant les jours de Pessah, tu ne dis plus le Hallel complet, alors que le premier soir tu le dis. Tu dis le Hallel complet parce qu'il y a une très grande lumière. C'est vrai que tu ne l'as pas méritée, mais elle est là. Elle t'a sorti d'Égypte. Le lendemain, Kadosh Baruch Hu dit, bon, moi je m'en vais, débrouille-toi maintenant. Je te donne 49 jours pour arriver à la même lumière, mais avec ta force à toi. Ça s'appelle Sfirat HaOmer. Les 49 jours du Omer, c'est ton boulot à toi pour arriver le jour de Shavuot à la même lumière que tu avais à Pessah, avec la grande différence, c'est que maintenant, c'est toi qui as bossé. Donc la lumière de Pessah, elle ne vaut plus rien. C'est la lumière de Shavuot qui va te rester. Parce que celle-là, tu l'as acquise. Celle-là, tu l'as bossée. Encore un exemple. Vous comprenez comment ça marche? C'est un rythme dans la vie. Et dans chaque élément, c'est pareil. Maintenant, je vais un tout petit peu approfondir pour que vous compreniez le sens profond de ce schéma triangulaire. Construction, destruction et reconstruction. La première construction, ça s'appelle dans le langage de la Torah une ségoula. Qu'est-ce que c'est une ségoula? Un cadeau divin qui ne dépend pas de tes actions. Par exemple, je suis né. Quand je suis né, je suis sorti le premier jour de ma vie. C'était Simchat Torah, la nuit de Simchat Torah, je suis né à Be'er Sheva. Ma maman m'a accouché. Dans le petit Yoël, le petit bébé que j'étais, Dieu a déjà mis des ingrédients cadeaux. Donc toi, tu es un artiste, et toi, tu peux donner des cours de Torah. Allez, vas-y. Ma mère, elle m'a ramené à la maison, tranquille, j'ai commencé mon enfance. Ça fait un cadeau divin. Qu'est-ce que je fais maintenant toute ma vie? J'ouvre le cadeau. Je dois l'acquérir. Il m'a été donné cadeau, mais ce n'est pas le mien. Je dois m'entraîner pour réaliser le cadeau qu'il m'a été donné gratuitement. Donc je fais 50 ans que je suis dans mon atelier en train de peindre et 50 ans que je suis en train de donner des cours de Torah pour m'apprendre à réaliser le cadeau qu'il a donné à ce petit bébé. Parce que j'aurais pu passer ma vie avec ces deux cadeaux à l'intérieur de moi, fermés dans un beau papier cellophane, avec des nœuds, double nœud, papillon, et jamais j'aurais ouvert ces cadeaux, vous êtes d'accord? Et j'aurais pu être un artiste non réalisé, et un enseignant qui n'a jamais ouvert sa bouche. C'est possible. Combien de personnes entre nous reçoivent des cadeaux qui n'ont jamais ouvert? Eh bien ça, c'est exactement le même rite. Le premier degré, celui que j'ai reçu quand j'étais bébé, c'était divin, c'est pas de moi, j'ai rien fait, il me l'a donné cadeau. Mais il m'a dit, attention, je t'ai donné un cadeau, mais ce cadeau ne se réalisera pas tant que toi, tu ne feras pas l'effort d'ouvrir ce cadeau et de le réaliser. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'entraîner. Comment on dit s'entraîner en hébreu? Lehit Amen. Vous entendez un petit peu une racine? Emouna. Lehit Amen, c'est la Emouna. Vous, comment vous traduisez le mot Emouna? La foi, la confiance, la foi. Arrêtez, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est ni la croyance, ni tous ces mots. C'est stam des mots en français, galvaudés qui ne veulent rien dire. Emouna en hébreu, ça a un seul sens. Les Amen, c'est-à-dire certifié. Certifié. C'est-à-dire, Dieu m'a créé artiste, maintenant toute ma vie, je vais certifier ce qu'il m'a mis en moi. Comment je certifie? Eh bien, je réalise au maximum, je sors tout ce cadeau et je le mets en place. Sur des œuvres. Vous avez compris? L'éamen en hébreu veut dire certifié. Anima ami, c'est pas j'ai confiance, ni j'ai la foi, ni je crois, ni quoi que ce soit. Je certifie. Cette certification, donc la deuxième étape maintenant, c'est un cadeau de Dieu ou c'est ma volonté? Ma volonté. Donc nous avons quitté la Ségoula, première étape, et maintenant nous sommes dans la Bechira. Qu'est-ce que c'est la Bechira? Le choix. Hier, j'ai donné un cours à quelques hommes sur justement la Bechira. Et il y a un parmi les élèves, des gens, des personnes âgées, qui me dit, moi j'ai besoin de voir des signaux, des signes. Je lui dis, eh ben tu en verras. Alors il est sorti du cours et je reçois un WhatsApp. Il me dit, je suis rentré dans ma voiture, il y avait un bus devant moi, il y avait marqué « Abechira Shelcha ». Le choix t'appartient. Il m'a dit, je peux revenir? J'ai dit, non, je suis déjà sorti. Il avait besoin de ça. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu lui a envoyé, Baruch Hashem. Kadosh Baruch Hu m'a fait une tova. Et en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que le premier degré, c'est un degré que tu as reçu cadeau, c'est pas le tien. Tu ne pourras jamais rien faire avec si tu ne fais pas en sorte de le réaliser. Réalise ton potentiel. Développe ton potentiel. Sinon, il sera toujours éteint, fermé dans son papier cadeau. Donc le deuxième degré s'appelle Bechira. C'est bizarre parce que le mot Bachar, choisir, c'est les mêmes lettres. Si je les tourne, vous voyez, j'ai encore de la peinture. Bachar, les mêmes lettres, c'est Charev, détruit. Tant qu'il n'y a pas eu destruction du premier degré que tu as reçu cadeau, Bachar ne peut pas venir la Bechira. Charev, Bocher. Donc tu ne peux pas laisser les choses telles que Dieu te les a données. Ça ne reste pas, ça ne tient pas. C'est juste un potentiel. Développe-le. Développe-le. Développe-toi. Ça, c'est le choix de l'homme et c'est ça, en cela, que le troisième Beth Amikdash sera reconstruit parce que maintenant, nous avons entre les deux 2000 et quelques années d'angoisse, de languissement, de pleurs, d'attente. De souffrance, alors je vous dis pas quelle beauté il va avoir. Vous comprenez? Ça sera quelque chose qui dépasse ce que vous connaissez. C'est même pas une réplique du deuxième ni du premier. Ça n'a aucun rapport. Banoui me'esh. Il sera construit de feu. Qu'est-ce que c'est que ce feu? Tes désirs. C'est ça le feu. Plus tu as le feu en toi, plus le Beth Amikdash qui va apparaître à tes yeux, ça sera en réalité la couleur de ta flamme. C'est à la hauteur de tes désirs. Rabotai, c'est un grand secret, ce chiour-là, pour la vie. Et si on comprend ce cheminement, parce qu'il fait partie, c'est une loi de la nature, Dieu a créé le monde comme ça. Même lui, à Kadosh Baruch Hu, avant d'arriver au monde qu'on connaît, il y a marqué Haya Akadosh Baruch Hu Bore Olamot ou Machrivam. Il construisait des mondes et il les détruisait. Pourquoi? Parce que c'était la matrice de notre monde. Ça veut dire que dans l'ADN de notre monde, c'est comme ça. Donc n'aie pas peur quand tu te casses la figure. N'aie pas peur quand quelque chose s'éteint, qui s'arrête à un moment donné. C'est pas que ça y est, c'est l'extinction totale. C'est juste une phase. Attention. Et là, tu dois rentrer ton intelligence. Dans cette phase de silence, de noir, d'angoisse, tout ce que tu veux, c'est là où tu dois te réveiller. Quand est-ce qu'on a récupéré les plus gros trésors de l'Égypte? Le jour où il faisait noir, ce qu'on appelait la plaie des ténèbres. Alors, vraiment, entre nous, vous avez un Moshe qui vient, avant d'être un Moshe, il arrive, il nous dit, voilà, Dieu m'a choisi, je ne sais pas pourquoi, pour vous sortir d'Égypte. Donc je suis le Mashiach. Ok. D'accord. C'est gentil, mais on va voir sur le temps ce que tu es capable de nous donner. Ben, ce soir, il y a un cours. Mon cher Rabbeinu donne un cours à 20h30. Combien arrive? Personne. Personne. Mon cher Rabbeinu, pendant toute la période où il était en Égypte, personne ne faisait attention à lui. Il y avait surtout les arbres collés avec des agrafes. Chiour de mon cher Rabbeinu ce soir, il n'y avait pas un chat. Imaginez-vous aujourd'hui, je vous dis, il y a un cours de Moshe Rabbeinu ce soir à Natania. Wow. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a, il y a eu une brisure au milieu. Maintenant, on va languir. Bien, Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé, nous n'avons plus, on n'allait pas au cours, mais en plus, on avait raison de ne pas aller au cours. Pourquoi? Parce que plus on s'approchait de la sortie d'Égypte, plus il faisait noir. Et les gens qui disaient c'est ça le Mashiach, comme les gens qui disent aujourd'hui, c'est ça ton Mashiach, arrête, tu nous as fatigué avec tes perruques et tes machins, arrêtez. Ça fait 200 ans que vous nous bassinez la tête avec votre Mashiach. Tu vois pas que c'est là, dans tout le monde? C'est pareil, Rabotai, c'est la même chose. Et plus on s'approchait, plus les gens ils disaient arrêtez, qu'est-ce que tu nous racontes? Sur 100 personnes, 80 ont quitté le bateau. Imaginez-vous, hein? Et sur les 20 qui sont sortis, il y avait 19 qui étaient des râleurs finis. Et un seul croyait plus ou moins, bon, on va voir, je lui donne une chance encore. Mais c'est exactement le même nombre aujourd'hui. 80% ont abandonné l'idée messianique, ils nous prennent pour des fous. Aujourd'hui, dire que tu es un juif messianique, c'est une insulte. De dire que tu veux construire le temple, alors ça c'est tu rentres en prison. Que tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche sur le mont du temple. Tu n'as pas le droit d'avoir un drapeau avec toi, un signe de prière, rien. Attends, Kadosh Baruch Hu, franchement, c'est où la Géoula, nous? Qu'est-ce que vous nous racontez, vous les rabbins? Mais c'est la même chose. Rabotai, c'est Dafka dans cette période-là maintenant, où il y a cette grande extinction de lumière, de noir. Ce noir dure un petit moment. Il y a marqué que ça paralyse ce noir. Vous savez comment on dit en Égypte? Velo kam ish mi mekomo. Les gens n'arrivaient pas à bouger tellement le noir était épais, qu'il était presque palpable, qu'il t'étouffait. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que t'es coincé, t'es paralysé dans un non-mouvement parce que tu sais plus quoi faire. C'est ça que ça veut dire. Regardez les expressions de nos sages. Faut arrêter de lire la Torah au premier degré. Comprends ce qu'il y a caché à l'intérieur de ces dires. Eh bien, plus le noir est comme ça, plus la lumière qui va venir sera grande. Et ça, c'est la conclusion du Zohar. Let Nehora. Il n'y a pas de lumière aussi belle, aussi grande, El Amigo Hashucha, que celle qui est sortie des ténèbres. C'est-à-dire, après les ténèbres, après l'extinction, après la période de dépression dans laquelle nous sommes, on va grimper à des degrés qui vont être tellement grands que vous allez vous rappeler, vous allez dire, oh là là, il nous l'avait dit dans le chiour. Et après, vous allez m'appeler et je vais vous dire, moi, je suis déjà sorti. Darabah.